La guerre 14-18 en pays cordé, Michel Bonnet.
Si sabías mon país, ani non ni frontiero, di l'Uber se spandis l'uno foli pupeio, se trapo pescami, di l'usan de l'aspero, di l'uca o del rasi, di la mar del albiero. Se sabías mon país, se scumpe la sinestro, di la flor che speris, di l'ucor de l'asbestio, di l'umbro che blanquis, di l'auto che respeglio, di la dussur di unis,
Michel Bonnet, 14-18 en pays cordé. Bonjour chers amis. Aujourd'hui de quoi allons-nous parler? Mais vous le savez, puisque avec la journée des femmes, on n'a pas le droit de parler d'un autre sujet que des femmes. Donc nous allons parler des cordaises, on l'a déjà fait bien sûr, mais on va y revenir parce que cette semaine c'est exceptionnel. Puis on va essayer de le faire en offrant des visages de cordaises, pas des théories sur la femme ceci, la cuisinière cela, non, madame une telle, ma grand-mère, mon grand, etc. Et on va le faire avec un ami, vous savez que nous avons un ami Léonce Marty qui a été cordé, qui a vécu pendant la guerre de 14-18 à Cordes. Alors, il a eu la bonne idée d'écrire ses souvenirs dans un livre, Le Cordior, que je vous conseille de lire si vous réussissez à le trouver. Mais enfin, donc il nous présente un certain nombre de visages de femmes, sa maman, sa tante, sa grand-mère, et puis d'autres, des femmes dans Cordes. Alors, donc, on va lire des passages où il nous trace le portrait de l'une ou l'autre de ces femmes qui l'ont marqué, qui l'ont aidé à traverser la guerre. Et ces extraits, donc du Cordior, sont lus aujourd'hui par notre ami que tout le monde connaît, Yann Degnaud, qui est de sur les pavés là-haut, à la porte des Ormeaux. Voilà, donc Yann, bonjour.
Bonjour.
Voilà, alors... on va attaquer de suite. Donc, Léonce Marty, j'ai presque envie de dire, tu vas nous parler, Léonce, de ta maman, en premier. Alors, donc, écoutons Léonce nous dire qu'il avait trois mamans, et il va nous parler d'abord de la première.
Celle qui m'a mis au monde, je ne la voyais qu'au repas. C'était elle qui faisait bouillir la marmite. Mon père était brodeur et ma mère enfileuse. C'est ainsi qu'on appelait celle qui aidait le brodeur. Mon père était parti à la guerre et a été tué à Verdun en 1916. Ma mère a pris la suite au métier à broder. Elle travaillait dur pour gagner de quoi vivre. Il lui arrivait de faire des journées de 12 heures et de se lever dès 3 heures de la nuit en pleine période de canicule. Ce n'était pas un travail de femme, mais elle assumait sans faiblir. Ce n'est que plus tard que l'accumulation de cette trop grande fatigue a perturbé sa santé. Et ce n'est que plus tard que j'ai compris son sacrifice poussé à l'extrême pour me permettre de poursuivre les études après le certificat. Mais les enfants ne peuvent pas se rendre compte de ces choses-là. Ce n'est lorsqu'ils deviennent des adultes et parfois il est trop tard pour marquer leur reconnaissance qu'ils regrettent leur incompréhension égoïste.
Nous en sommes un peu tous là. Et ça nous interroge parce que lui, il nous dit pas grand-chose quand même de sa maman. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que là, ce n'est pas dit, mais il a quitté la maison où travaillait ou habitait sa maman pour habiter chez sa grand-mère à la bouteillerie. Sa maman et donc la maison était au Fourmillier. Mais pendant toute la durée de la guerre, ils ont préféré laisser la maman travailler seule. Peut-être parce qu'il était un peu embêtant sur les bords, comme tous les enfants, mais surtout parce que ça faisait des allers-retours, il fallait venir à l'école qui était à la bouteillerie, la grand-mère habitait juste là, donc c'était beaucoup plus facile. Alors, donc il n'a pas beaucoup de choses très très précises, concrètes à nous dire sur sa maman, sur sa première maman. Alors il va nous parler maintenant d'une deuxième maman qui est un peu plus éloignée de lui, qui est sa tante. Sa tante Angèle, alors là, on sent qu'il a rêvé d'elle. Hein. Alors voilà, donc nous allons écouter ce qu'il va nous donner comme détail très sympa. Cette tante Angèle, j'ai l'impression qu'elle a été une super belle femme d'une part, mais une super bonne femme aussi.
Et ah, oui. Tante Angèle, c'était ma mère en second. C'est comme ça que je l'appelais. svelte, alerte et toujours en mouvement. Depuis le jour de ma naissance, elle s'est constamment occupée de moi, alors qu'elle ne s'est jamais mariée. Elle a reporté sur son neveu tout l'amour qu'elle aurait donné à ses propres enfants. En semaine prise par son travail, elle n'avait guère le temps de s'occuper de moi, sauf pendant les repas, où je devais me tenir bien à table, écouter ce que les grandes personnes disaient sans faire de réflexion, et surtout oublier tout ce que j'entendais. Elle seule se servait de la machine à coudre. Il lui incombait les divers accommodages. C'est pour ça, lorsqu'il m'arrivait trop souvent de revenir de l'école avec le fameux tablier déchiré, elle me tançait vertement en m'exhortant à être plus soigneux de mes vêtements, car ces derniers coûtaient trop cher pour notre maigre bourse. Le dimanche matin, elle avait toute liberté pour s'occuper de moi. Elle ne s'en privait pas. Cela commençait dès le petit déjeuner où il était interdit de mettre les coudes sur la table, de faire du bruit en mangeant ou en buvant son café au lait, etc., etc. Cela continuait par la toilette dominicale. Dans cette cérémonie particulièrement importante, elle donnait toute la mesure de ses capacités. C'était, je crois, une façon de se défouler pour elle. Évidemment, en semaine, la toilette était quelque peu superficielle. D'une part parce que je n'avais guère le temps, mais aussi surtout parce que je n'étais pas surveillé. Le dimanche, par contre, c'était la remise en ordre, le grand jeu. Je n'ai pas besoin de préciser que nous n'avions ni salle de bain, ni baignoire, ni douche, et que ma tante me faisait tenir droit, nu comme un ver, dans la plus grande bassine de la maison, dans laquelle elle versait de l'eau que je trouvais toujours trop chaude. Ça débutait mal, par des cris et parfois même des gifles. Puis, le calme revenu, j'ai été savonné abondamment et lavé comme une assiette, jusque dans les plus petits coins. L'hiver, la cérémonie se déroulait à la cuisine, devant le feu de bois, où j'étais séché vigoureusement. Ensuite, bien séché, elle m'habillait, mettant un point d'honneur à me vêtir impeccablement. Chaussettes bien tirées, souliers cirés, mouchoir propre à la poche et béret posé droit sur la tête et non de travers comme un petit voyou. Tout ainsi terminé, elle me disait de ne pas perdre de temps en route, car le premier coup de la messe avait sonné. Alors, toute gonflée de joie et surtout de fierté, se mettant devant la porte pour jouir de son œuvre, j'étais l'image parfaite du gentil petit garçon qu'elle suivait des yeux jusqu'au détour de la rue.
Elle a dû rêver beaucoup à son petit garçon. Il n'était pas toujours aussi gentil, sans doute. Il devait bien donner du souci de temps en temps.
Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás.
Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás.
Estás perdiendo el tiempo, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás. Thank you.
así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando,
quizás, 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 quizás.
Michel Bonnet, 14-18 en Pays Cordé. Nous venons d'avoir le témoignage, si on peut dire, disons le souvenir de sa tante Angèle, donné par Léonce Marty. Ce qui me frappe dans cette façon dont il présente le travail de sa tante, c'est qu'on n'a vraiment pas du tout l'impression d'une situation particulière de guerre. Tout doit se passer normalement. La guerre existe ou n'existe pas, c'est pas son problème. Il faut laver le gamin, on le lave. Il faut qu'il aille à l'école, il va à l'école. Il faut qu'il aille à la messe, il faut qu'il aille à la messe. Et ainsi de suite. C'est une façon de lutter aussi pour dire non, ce n'est pas la guerre. Non, on va pas se laisser démolir par ce qui se passe ailleurs, là-haut, au nord, etc. Donc voilà sa deuxième maman. Et puis alors après on a la troisième. Alors là c'est le bon Dieu sur terre, ou disons c'est sa grand-mère. Il a passé toute la guerre avec sa grand-mère. Il mangeait chez sa grand-mère, il dormait chez sa grand-mère, il travaillait avec elle, etc. Et on sent que il a, tout au long de son livre d'ailleurs, il n'arrête pas de parler d'elle, de dire des tas et des tas de choses. On ne peut pas tout lire, mais enfin, il va nous donner quand même un petit portrait de sa grand-mère. Alors voilà, cette chère grand-mère Baptistine, qui a fait, disons, survivre ou même grandir le petit Léonce pendant les années de guerre.
Et oui, Baptistine, ma troisième mère, ma grand-mère. Si je ne voyais ma mère et ma tante qu'à l'heure des repas, ma grand-mère profitait de moi, si l'on peut dire, tout le temps que je ne consacrais pas au maître d'école. C'était une femme extrêmement active. Ses journées étaient toujours bien remplies et elle ne tolérait pas que son entourage reste à ne rien faire. Elle savait me charger de tous les menus travaux qui m'étaient physiquement possible d'effectuer. Par exemple, le jeudi, elle m'envoyait chercher l'herbe pour les lapins. Ah, les lapins! Si j'avais connu la myxomatose, j'aurais été vite libéré de cette corvée. J'avais à ramener une sache bien remplie et d'herbes choisies, s'il vous plaît, hein, interdites celles des fossés ou talus. Il fallait trouver dans les prés soit du sainfoin, soit de la luzerne, soit des carottes sauvages. Un tel travail était long et fastidieux. Toute l'après-midi passerait facilement. Je m'étais heureusement rendu compte que ma grand-mère, lorsqu'elle vidait le sac pour vérifier la qualité de l'herbe, voyait surtout ce qui constituait le fond du sac quand elle retournait. Donc, il fallait d'abord que je ramasse l'herbe choisie, ce serait la première qui affronterait la vérification, et qu'ensuite je remplisse la bourre rapidement avec du tout venant. Comment pouvait-elle dans une journée faire tout ce qu'elle faisait? Pas de commodité, pas d'eau courante, la cuisine sur le feu de bois, tenir le ménage, cuisiner de bons petits plats, élever des lapins, des canards, travailler chez les autres, prendre le temps d'aller chercher des champignons à pied à 5 ou 7 km de la maison, soigner la vigne et le jardin. Et pour compléter le tout, elle était chargée du poids public et responsable de la fontaine.
Elle avait de quoi faire, et surtout quand on y pense mot à mot, ça fait vraiment du travail. Quand on connaît Corde, aller partir dans les bois chercher des champignons, c'est pas tout à fait la même chose que de descendre à 8 à 8 pour faire ses achats. Et par contre, il a gardé, Léonce a gardé un souvenir un peu particulier d'un travail que ça... auquel tenait sa grand-mère et qu'il n'aimait pas du tout, c'était s'occuper de la vigne qu'ils avaient. Parce qu'ils avaient une vigne, bon, qui était de la famille. Et alors là, ça, c'est un de ces mauvais souvenirs. Et quelque part, si j'ai bonne mémoire, il dit bien que la première chose qu'il a fait le jour où il a hérité de la vigne, ça a été de la liquider. Alors, un mot sur cette grand-mère au milieu de sa vigne.
Ma grand-mère était devenue, à la mort brutale d'Angélie, son mari, propriétaire de la vigne de Liversin. Ses filles voulaient qu'on s'en débarrasse car il n'y avait pas d'homme pour s'en occuper et qui plus est, aucun d'entre nous ne buvait du vin. Mais par pur respect du souvenir de celui qui avait apporté cette vigne lors du mariage, il fallait continuer à entretenir ce lopin de terre. Et c'est ainsi que je deviens le tâcheron de ma grand-mère dans les travaux qu'il m'était possible d'effectuer. Je transportais les outils sur la brouette, également l'eau, le sulfate et la pompe. Sur place, après avoir préparé la mixture, j'aidais cette femme dont l'énergie dépassait les forces. Elle chargeait sur ses épaules la pompe à sulfater. Ne parlons pas des vendanges qui donnaient l'occasion de belles chamailleries, car nul d'entre nous n'aimait couper des raisins toute une journée et s'occuper de quelques comportes de vendanges. Nous nous demandions pourquoi faire, car je le répète, nous ne buvions que de l'eau. Ah, cette vigne, quel tracas elle a pu m'occasionner!
Voilà, les gros soucis de pendant la guerre, on s'y attendrait pas, si on peut dire, mais c'est sûr, ce sont des tranches de vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça nous montre vraiment des hommes et des femmes, des enfants, des adultes, vivants et faisant face à tout ce qu'il faut pour tourner, faire tourner Corde comme il faut.
On obtient tout même ce qui est louche. Si son de la pop et du rock dans le Tarn. La vie des pays. CFM.
La guerre 14-18 en pays cordé. Michel Bonnet.
Nous continuons à célébrer les femmes cordaises pendant la guerre. Et les femmes cordaises en général par la même occasion, bien sûr. Alors, Léonce Martin nous a parlé de trois femmes qu'il avait particulièrement bien connues, puisque c'était sa mère, sa tante et sa grand-mère. Et il les a vues vivre. Bien sûr, il a un regard d'enfant, il parle beaucoup de lui parce que il parle de sa relation avec ses femmes, mais ça nous donne quand même une image, quand on y réfléchit, nous adultes, on sait ce qu'il y a par derrière ces mots. Et quand il s'agit d'aller sur le coteau là-haut et puis de sulfater la vigne, on sait que c'est pas évident. Moi, personnellement, je préfère pas le faire, surtout en ce moment. Et il ne voyait pas que ces trois femmes-là. Il y avait toute une série d'autres femmes cordaises qui l'ont marqué. Et je trouve, même si c'est très rapide, il a comme ça des flashs. Tout d'un coup, clac, la Titou, la Caliona, la Miquero. Enfin, vous voyez, c'est bon pour les gens qui ont vécu longtemps à Cordes. Pour les vieilles personnes de Corse, ça doit même leur rappeler un certain nombre de souvenirs, tous ces gens-là. Voilà, alors il va nous donner quelques photographies de femmes à Cordes pendant toujours la guerre de 14.
Été comme hiver, les marchands de légumes, patentés ou non, faisaient du porte-à-porte pour proposer leurs produits. C'était Marie Titou avec son chariot attelé d'un fringant petit cheval, comédienne avertie. Elle vous cajolait pour enfin compte vous faire prendre ce qu'elle désirait vendre. Ou c'était la Caliona qui poussait devant elle une petite voiturette débordant de tous les légumes frais de son jardin. Elle venait à pied de son lointain domicile de camp qu'elle ne rejoignait qu'après avoir fait le tour complet de Cordes. C'était surtout la Miquero qui, malgré un âge avancé, parcourait les difficiles rues en poussant une brouette sur laquelle une planche en forme de plateau supportait les légumes du jour. Sur cet éventail ambulant et branlant, on trouvait de tout, mais par petites quantités, des carottes, des échalotes, des oignons, des salades, des pissenlits, de la roquette, de la mâche, des radis, du cresson, et selon la saison, des fraises, des framboises, des artichauts frais cueillis du matin même. C'était aussi Clemento, qui, depuis le mas de Tulle, faisait le tour de la cité en charriant à bout de bras des gros bidons de lait. Pour soulager les bras, les récipients étaient suspendus à une barre de bois, une sorte de joug, allant d'une épaule à l'autre en passant derrière la nuque. Quelle leçon d'énergie ! Passer inaperçu en ces temps difficiles nous a donné, avec une humeur toujours égale et jusqu'à ses derniers jours, cette grande et maigre femme aux cheveux blancs.
Eh bien voilà, il faut qu'on dise merci à Léonce d'avoir eu des yeux bien ouverts sur les gens qui étaient autour de lui, c'est pas toujours le cas, et puis d'avoir eu assez de cœur pour s'attacher à ces femmes et longtemps après encore s'en souvenir et prendre le temps de nous dresser leur portrait. Et ce qu'il y a, c'est que quand on parle de la Journée internationale des femmes, on a tendance à aller chercher des êtres exceptionnels. C'est évident qu'il ne faut pas les oublier, ça c'est sûr. Mais là, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il faut se rappeler que ce qui est exceptionnel, c'est le travail quotidien de toutes ces femmes qui continuent, quoi qu'il arrive, à faire ce qu'il faut faire. Que ça se voit, que ça ne se voit pas, que ça porte des fruits ou pas, elles en savent trop rien, il faut le faire, on le fait. Voilà, c'est grâce à ces femmes que le monde tourne, mais surtout c'est grâce à ces femmes-là que Cordes est restée une ville sympathique et toujours vivable, même pendant la guerre. Nous en profitons encore aujourd'hui et nous continuerons à en profiter. Donc je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.
Non te va mien ruelo, mien rue mien rotonase. Lon lon ya ova mi duelo, non non viva mia ilo. Va, non viva do tone a se, e alolo non vigne, non viva do to agbe yawo, non viva do to agbe yawo, non viva. Mia ilo agbe le te kwa wo, mia ila. Mia ilo vivida. Na messia me.
Dum, 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 dum.
Va, no te va mi, mia no to nasce. No te va mia due lo. Mia due, mia no to nasce. No, no, ya o va mi due lo. Non viva mia ilo. Va, non viva do to ne a se. E allo no via. Non viva do to agwe yo wo. Non viva do to agwe yo wo. Non viva mia ilo. Agwe le te kwa wo. Mia ila. Mia ilo vivida. Non, 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 non,
non, non, non, non, non, non,
non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
non, non, non,
non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
Nacero, a Messia me ne va milai. Ci giù e muni a me ne capito a vossi. Giù,
va milo, va mila.
A quei agnomi giù vallò.
Présentée par Michel Bonnet.
Venez découvrir comment la Grande Guerre a été vécue dans notre région Nous le faisons en collaboration avec les archives du Tarn, les associations qui s'occupent du patrimoine et de l'histoire locale, la Talvera et bien d'autres.
14-18 en Pays Cordé sur CFM le lundi à 13h, en rediffusion le dimanche à 11h.
Il fallait qu'il s'en aille, il n'est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon amour inconnu.